Question pour un champion. Voulons-nous que l'équipe de France gagne? Je pense que nous avons plusieurs vont dire oui, mais peut-être que plusieurs vont dire moi j'aimerais qu'une autre équipe gagne. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Voulons-nous que Dieu fasse de grandes choses dans notre vie? Voulons-nous qu'il agisse puissamment au travers de nous? Voulons-nous vivre des miracles de changement, de transformation de nos caractères? Voulons-nous vivre des délivrances en ce qui concerne le péché, peut-être des dépendances, de mauvaises habitudes? Voulons-nous expérimenter davantage la paix de Dieu dans notre vie et aussi dans toutes nos relations? Difficile, après avoir entendu tout ça, de dire non. On a tous envie de dire oui. Et moi, j'ai envie de dire aussi, c'est possible. C'est possible. Dieu fera de grandes choses en nous et au travers de nous si nous vivons pleinement trois choses que l'apôtre Pierre a mis en place dans sa vie. Ce matin, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous commençons notre série de messages sur la deuxième lettre de Pierre, qui s'intitule « Soyons vigilants ». Alors, ce n'est pas écrit dans nos Bibles, « Soyons vigilants », c'est nous qui l'appelons ainsi. « Soyons vigilants ». Et pourquoi ce titre? Parce que Pierre veut mettre les chrétiens de son époque en garde contre les prétendus enseignants et encourager donc les chrétiens dans la foi et dans la connaissance de Christ. Je vais maintenant lire avec vous 2 Pierre, donc chapitre 1, et on va juste lire les deux premiers versets. Alors je vous laisse le temps de trouver ce texte. 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 2. De Pierre et les deux premiers versets. Je lis. Simon, Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Amen. Vous savez, je suis souvent touché par les hommes et les femmes que Dieu a utilisés puissamment. Je pense que plusieurs ici sont touchés par tous ces hommes et ces femmes que Dieu utilise de manière incroyable. Et une chose qui me passionne beaucoup, c'est de savoir comment ils ont fait pour que Dieu se serve ainsi d'eux. Pour Pierre, il y a 3 choses dans ces 2 premiers versets que Dieu a fait avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Dieu a fait de lui un serviteur. Dans le texte, il dit aussi qu'il lui a donné la foi. Donc il parle, il s'adresse à ceux qui ont la même foi que lui. Donc il dit bien qu'il a reçu lui-même ce privilège. Et troisièmement, il n'a cessé, en tout cas il demande, il prie cela, que la grâce et la paix vous soient données, multipliées, etc. Et quand on regarde sa vie, j'ai envie de dire, il n'a cessé, lui Pierre, de grandir dans la grâce et la paix que seul Dieu peut donner. Alors, question, que dois-je, moi, nous, que devons-nous faire pour que Dieu fasse de grandes choses en nous et au travers de nous? Première réponse, servir Dieu de tout mon cœur. Alors vous l'entendez tout de suite, avant même de servir Dieu, Dieu fait de moi un serviteur. Nous allons voir cela par rapport à ce que Pierre a vécu. Pierre est un homme qui a vu Jésus-Christ. Il écrit une lettre, certainement, aux églises d'Asie mineure, dans un temps de persécution qui ne cesse de s'intensifier. Pierre se concentre donc sur le plus important, sur les problèmes internes de l'Église et surtout sur celui des prétendus enseignants qui poussaient les croyants à douter de leur foi et à s'éloigner du message de Jésus-Christ. Pierre lutte contre les enseignants de mensonges en dénonçant leurs mauvaises motivations et en réaffirmant les vérités chrétiennes qui sont l'autorité de la Bible, la primauté de la foi et l'assurance du retour de Jésus-Christ. Trois choses: autorité de la Bible, primauté de la foi et assurance du retour de Jésus-Christ. Dans le premier verset, la façon dont Pierre se présente est importante. Serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Il est apôtre. Le terme apôtre veut dire messager, envoyé. Pierre ne peut pas se vanter de son titre, car lui qui est un homme passionné, courageux, franc, énergique, impulsif, vigoureux et fort, il est tombé dans l'orgueil à plusieurs reprises. Quand Jésus-Christ était sur terre, Pierre a osé lui tenir tête lorsqu'il voulait lui laver les pieds en signe de pardon. Il affirme à Jésus qu'il est prêt à aller en prison, à mourir pour lui. Mais il a renié une fois, trois fois. Il s'endort aussi dans le jardin de Gethsémané, alors qu'il devait rester éveillé et prier. Un moment où Jésus a vraiment besoin de ses disciples, on entend... Il s'endort. Et enfin, il a pris... Alors que Jésus parle d'amour, il a tellement parlé d'amour, comment a oublié un tel message? Pierre prend une épée et il a coupé l'oreille d'un soldat lors de l'arrestation de Jésus-Christ. Hey, Pierre, que fais-tu? Pierre a souvent échoué dans son engagement envers Jésus-Christ. Mais malgré cela, Jésus-Christ l'a quand même choisi. C'est bizarre. Il n'a pas un petit rôle, notre cher Pierre. Il est apôtre. Ce matin, nous lisons une de ses lettres qui est parole de Dieu. Waouh ! Il est apôtre, il a reçu la responsabilité de représenter et de parler au nom de Jésus-Christ. En tant qu'apôtre, ses enseignements officiels constitue le fondement de l'Église jusqu'à ce jour. Oui, même si nous avons échoué à plusieurs reprises à cause de notre caractère pas toujours au top, nos mauvaises habitudes, ou à cause de nos nombreuses faiblesses, Dieu reste plein d'amour et toujours désireux d'agir au travers de nous. Amen. C'est énorme ce que je viens de dire, mais vous êtes peut-être trop fatigués, c'est ça. Il faut que je vous réveille un peu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes trop à côté de la plaque pour pouvoir continuer à être utilisés par Dieu, à être utiles à Dieu. Satan tient plein de gens, plein de chrétiens de cette manière. Il leur fait croire que leurs fautes passées les disqualifient devant Dieu. Et donc, il y a des chrétiens qui n'osent même plus parler à Dieu. Ils n'osent même plus témoigner de leur foi. Ils n'osent même plus intégrer une assemblée pour donner, recevoir, être encouragé. Quand il y a la Sainte Cène, comme nous l'avons pris ce matin, le repas du Seigneur, ils disent « Non, je suis indigne. » Pourtant, ce sont ceux qui sont indignes qui prennent le repas du Seigneur, je le rappelle. Et ils en veulent à Dieu parce qu'ils pensent qu'il ne les aime plus à cause de leur lot d'échecs passés. « J'ai fait trop de bêtises, comment Dieu peut m'aimer ?» C'est plus possible. Mais ce sont de nombreux mensonges de l'ennemi, n'est-ce pas? L'ennemi passe son temps à dire toutes sortes de mensonges. Tu as raté ton mariage. Tu as mal élevé tes enfants. Tu as gâché ta vie. Tu es trop faible. Tu n'y arriveras jamais. Etc. Etc. Oui, il y a des échecs dans la vie. Ça fait partie de la vie normale. Des petits et des gros. Et nous vivrons les conséquences de nos mauvais choix. Ça fait partie aussi de la vie. Mais, Satan ne doit pas avoir le dernier mot. Si vous savez que vous êtes encore sous le poids de vos fautes passées, revenez à Dieu. Confessez vos fautes avec un cœur sincère. Croyez que Dieu vous pardonnera et croyez aussi qu'il continuera à agir en vous et au travers de vous. Sinon, Dieu n'est plus le Dieu que je connais dans la Bible et que je suis, que nous connaissons tous. Dieu est un Dieu qui pardonne, qui transforme. Il a fait à mille reprises. Croyez qu'il continuera à agir en vous et au travers de vous. Et servez-le de tout votre cœur. Retenons ceci. Dieu ne retient jamais nos fautes passées. Ses regards ne sont pas sur notre passé, mais sur notre futur. Il voit combien l'intimité avec lui pourrait combler notre vie. Il voit en nous le potentiel. Il veut faire de grandes choses avec nous et au travers de nous par la puissance de son esprit. Ça, Dieu a toujours ça en lui. Pour toi, pour moi. On a demandé un jour à un grand serviteur de Dieu quel était le secret de son intimité avec Dieu. C'est quoi ton secret? Dis-nous tout. On veut savoir. Il a répondu que depuis sa conversion, regardez ce qui est souligné, il était sûr du pardon de son maître. Tout découle de cette phrase, de ce que j'ai souligné ici. Il était sûr du pardon de son maître. Et qu'il lui parlait aussi clairement que lorsqu'il était en conversation avec quelqu'un. Et qu'il s'attendait tout autant aux réponses de ces conversations. La conviction qui habitait cet homme, être sûr du pardon de son maître. Tout comme cet homme, ne vivons pas sur notre passé, mais soyons sûrs du pardon de Dieu. Vivons pleinement la relation avec lui et servons-le de tout notre cœur. Pierre est un homme qui a connu l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, il n'est pas resté sur son passé. Dieu l'a restauré, l'a rempli de son esprit et l'a utilisé puissamment. Pierre, qui était orgueilleux, n'est pas désireux de faire étalage de son titre d'apôtre. Il ne se vante pas de sa position. Son titre d'apôtre arrive en deuxième position, pas en premier. Il est précédé, on pourrait dire, adouci par le mot serviteur. Serviteur, qui signifiait à l'époque esclave. Donc on pourrait lire la chose de cette manière. Pierre, esclave et apôtre. Quand Pierre dit qu'il est serviteur de Dieu, cela signifie qu'il reconnaît son devoir d'obéir à son maître, quel que soit le prix. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous devenons serviteurs. Nous devenons esclaves de Dieu. Alors, dire cela ne parle pas beaucoup, ne nous parle certainement pas beaucoup, parce que c'est des mots très forts et le mot esclave a vraiment des connotations graves et très dures à entendre. Mais voici ce que cela veut dire. Être serviteur de Dieu, c'est appartenir irrévocablement à Dieu. Appartenir à Dieu, c'est définitif. Deuxièmement, c'est être sans réserve à la disposition de Dieu. Dieu peut donc nous envoyer où il veut et faire de nous ce qu'il veut. Nous savons que nous n'avons aucun droit en propre, car tous nos droits ont été cédés à Dieu. Troisièmement, c'est devoir à Dieu une obéissance inconditionnelle. Donc, en toute situation, nous ne nous posons qu'une seule question. Père, que veux-tu que je fasse? Et enfin, c'est se tenir constamment au service de Dieu. Tout notre temps lui appartient. Tout. Je ne pense pas que nous avons tout cela en tête quand nous plaçons pour la première fois notre foi en Jésus-Christ. Cela changerait tellement de choses dans notre vie et dans la vie de l'Église et aussi dans ce monde si nous comprenions ce que signifie être un serviteur et vivre comme un serviteur de Dieu. Le mot serviteur est très ancien. Il peut paraître lourd quand nous l'isolons du texte, l'entier du texte. Mais bien avant, nous avons vu déjà avec Pierre qu'il a connu l'amour de Dieu et son pardon. Lui qui est tombé à plusieurs reprises. Il a été choisi par Dieu. Une responsabilité importante lui a été confiée. Privilège. Le seul mot qui nous vient au même, c'est il est serviteur, esclave. En fait, c'est un privilège. Apôtre, privilège. Plus loin, il va dire aussi, dans la suite du texte, il nous parle de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Il nous a sauvés. Cela veut dire qu'il nous a libérés du mal, de nos fautes, pour que nous ayons la vie éternelle, une relation rétablie avec Dieu pour toujours. Nous soumettre à quelqu'un qui nous écrase, qui ne nous aime pas, qui s'en fiche de nous, qui ment, qui est dur, qui profite de nous, qui nous rappelle sans cesse nos fautes passées, ça ne donne pas du tout envie, n'est-ce pas ? Mais nous soumettre à l'autorité d'une personne qui nous aime, qui nous pardonne, qui oublie toutes nos fautes passées, qui nous valorise, pour qui nous sommes importants, qui prend soin de nous, qui nous donne de l'espoir pour l'avenir, qui nous pousse par ses nombreux bienfaits à notre égard à vivre dans la reconnaissance devant une telle personne, le mot serviteur prend un sens totalement différent, n'est-ce pas ? Mes amis, si nous voulons que Dieu fasse de grandes choses en nous et au travers de nous, servons Dieu de tout notre cœur. Servons-le avec un cœur rempli de reconnaissance. Parce qu'il nous a choisis, il nous aime d'un amour immense. Que dois-je faire pour que Dieu fasse de grandes choses dans ma vie, au travers de moi, en moi et au travers de moi, servir Dieu de tout mon cœur. Deuxièmement, placer ma foi en Jésus-Christ. Pierre salue ses lecteurs et dit simplement cette phrase. Salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. Le but de ce verset est de mettre les lecteurs sur un même pied d'égalité que l'apôtre. Ok, je suis apôtre, mais en fait, on est sur le même pied d'égalité. Ce qui est le plus important dans la vie de quiconque, c'est la foi. Et sur ce point, Pierre est au même niveau que l'Église. Tout comme Pierre, ceux qui appartiennent à Dieu ont le même privilège, la foi. Il n'y a pas de mérite ici pour atteindre Dieu. Ce texte est vraiment touchant. Nous savons que Dieu a tout fait pour que nous puissions avoir accès à lui. Le mal que nous avons fait, nos imperfections devant sa sainteté, nos désobéissances à sa loi, tout cela fait que nous sommes totalement séparés de Dieu pour l'éternité. Nous méritons tous l'enfer d'être séparés de Dieu pour l'éternité. Il n'y a rien de plus horrible que cela, de vivre sans Dieu pour l'éternité. Nous ne pouvons rien faire pour rattraper le mal que nous avons fait et qui ne cesse de se manifester en nous et dans ce monde. Mais Dieu est venu par Jésus-Christ. Il a pris sur lui nos fautes, il est mort à notre place, il est ressuscité pour nous offrir son pardon, sa sainteté, la vie éternelle et une relation établie avec lui pour toujours. Maintenant qu'il a tout fait, nous devons simplement recevoir ce cadeau par la foi. D'un côté, Dieu a tout fait pour nous pardonner nos fautes, pour nous rendre purs, parfaits, nous donner accès à sa présence. Et de l'autre, nous devons tout simplement recevoir sa grâce, recevoir par la foi tout ce qu'il nous donne. Mais ce qui nous touche beaucoup plus dans ce texte que nous avons lu, c'est que Pierre ajoute qu'en fait, même la foi nous a été accordée. Même la foi. Vous vous rendez compte ? Je relis. Donc il dit bien qu'ils ont reçu le même privilège vous avez reçu le même privilège que moi, la foi. Éphésiens chapitre 2 dit la même chose, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli, personne n'a donc de raison de se vanter. Notre part pour être libérés du mal, de nos fautes, pour recevoir la vie éternelle est d'avoir la foi, et même cette foi ne vient pas de nous. Donc même si on se dit, bah, j'ai eu la foi, j'ai placé ma foi en Christ, en fait, c'est lui qui a permis que nous ayons cette foi. Il nous l'a donnée. Nous avons obtenu la foi comme un cadeau. Et elle ne se fonde pas sur nos mérites, mais sur Jésus-Christ, qui est notre Dieu et Sauveur. Pierre le dit, même privilège, la foi. Cela m'amène à dire ceci, quelle que soit la position que nous avons, rappelons-nous que nous avons reçu le même privilège, la foi. Si nous sommes pasteurs, responsables d'église, responsables d'activité, professeurs, ingénieurs, médecins, avocats, on essaie de trouver, les plus hauts placés dans l'église, peut-être, en fait, on n'est pas plus haut placé devant les autres. Nous avons reçu le même privilège, la foi. Donc le fait de savoir ça doit nous garder ensemble dans l'humilité. Car devant Dieu, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Que dois-je faire pour que Dieu fasse de grandes choses en moi et au travers de moi? Servir Dieu de tout mon cœur, placer ma foi en Jésus-Christ. Et pour ceux qui ont déjà placé la foi en Jésus-Christ, on pourrait dire, bah, par cette foi, le fait de savoir que j'ai cette foi, c'est servir avec humilité. Et enfin, troisièmement, expérimenter davantage la grâce et la paix de Dieu. Ce sera notre dernier point. Verset 2, que la grâce et la paix vous soient données en abondance. Ce n'est pas une simple formule d'introduction. Il s'agit d'une déclaration de ce que Pierre veut vraiment voir se produire en raison de sa lettre. Grâce et paix sont deux mots qui unissent deux cultures. Grâce, c'est le terme qui était utilisé par les Grecs pour dire bonjour. Et paix, shalom, shalom, pour les Juifs. Oui, je le répète encore aujourd'hui, Dieu n'a pas de chouchou. Il va amener à lui tout le monde, toutes les cultures avec leurs différences, pour former une famille libérée du mal qui dépend de lui et s'épanouit en lui pour l'éternité. Grâce, en grec, vient d'un verbe qui se traduit aussi par se réjouir. Une grâce est une faveur imméritée qui donne beaucoup de joie. La grâce dans le Nouveau Testament, c'est ce que Dieu donne gratuitement et abondamment. La libération du mal, le pardon des fautes, sa puissance pour servir et aussi vivre son intimité. La paix, c'est l'absence de conflit et en quelque sorte, c'est le fruit de la grâce. Il y a la paix avec Dieu, parce qu'il ne tient plus compte de nos fautes. Il y a la paix intérieure, parce que nous savons où nous allons. Et enfin, il y a la paix avec les autres, dans nos relations. Paix avec Dieu, paix avec nous-mêmes, paix les uns avec les autres. Ainsi, toutes les relations humaines, couple, parents-enfants, famille, église, nos petits groupes, voisins, collègues de travail, etc., doivent être dominées par la paix. Et Pierre ne veut pas seulement que la paix soit présente, mais qu'elle soit abondante, qu'elle se manifeste surtout au sein de l'Église de Dieu. En parlant de paix, dans toutes les relations humaines, je suis souvent triste quand je vois tant et tant de façades à ce niveau. J'ai assez souvent découvert des familles qui, en apparence, vont super bien, mais qui, au fond, vont mal, voire très mal. Quand le père, la mère, les enfants sont ensemble, chacun a sa façade, chacun fait comme si tout allait bien. Mais derrière, l'un critique l'autre. L'un en veut à l'autre. La paix dans les relations, c'est beaucoup plus que se dire bonjour, sourire, voire peut-être de bonnes discussions. La vraie paix, c'est être vrai. Oser dire quand ça ne va pas. Savoir écouter la souffrance de l'autre. Savoir écouter ce qui nous blesse ou ce qui blesse l'autre. Enfin, savoir dire ce qui nous blesse et écouter ce qui blesse l'autre. Et demander pardon. Savoir s'humilier l'un devant l'autre. Savoir reconnaître nos torts. Certains pensent qu'ils vivent dans la paix à cause justement de cette façade qui est constamment présente. Dans leur famille ou leur vie de couple ou peut-être dans d'autres relations, au travail, etc. Attention à nos façades. Dieu veut que la paix se multiplie dans nos foyers, chez nous, dans nos relations, notre relation de couple, dans nos relations avec nos enfants, dans les relations entre enfants-parents, dans les relations que nous vivons, quelles que soient les relations que nous avons autour de nous. Bien sûr, si cela dépend de nous, car nous ne pouvons pas changer l'autre qui est face à nous. La grâce et la paix viennent de Dieu. Elles ne sont pas nôtres par nature. Elles nous viennent de l'extérieur de nous-mêmes. Et Pierre désire qu'elles se manifestent de manière abondante. Que dois-je faire pour que Dieu fasse de grandes choses en moi et au travers de moi? Servir Dieu de tout mon cœur, placer moi pour Jésus-Christ, expérimenter davantage la grâce et la paix de Dieu. Mais il manque un élément, et ce sera le dernier élément que je vous laisse, et que Pierre laisse. Voilà pourquoi la chose la plus importante se trouve à la fin. Pour que la grâce et la paix soient manifestes, Pierre dit ceci. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Pierre expose l'une de ses convictions les plus profondes. La connaissance de Dieu est le moyen par lequel la grâce et la paix deviennent grandes et puissantes dans notre vie. Le mot connaissance rend l'idée d'une connaissance pleine, riche, profonde, authentique, qui implique un degré de compréhension intime d'un sujet précis et d'une personne. La connaissance ici est celle de Dieu, de Jésus-Christ et de son œuvre. Ce n'est pas simplement connaître ce que la Bible dit sur Dieu, c'est mieux le connaître par une relation intime qui se développe jour après jour. Cette connaissance est une communion avec Dieu qui engage tout notre être et influence notre manière de vivre. En fait, nous commençons notre relation avec Dieu par la connaissance de Jésus-Christ et son œuvre. Mais tout le reste de notre vie avec Dieu, c'est une quête, une recherche d'une plus grande connaissance de la personne, de sa gloire et de sa grâce. Voulons-nous jouir davantage de la grâce et la paix de Dieu? En un mot, découvrons Dieu. Nous n'étudions pas la Bible parce que, pour elle-même, tout simplement, j'aurai plein de connaissances, donc j'étudie. Je l'étudie pour cela. Non, nous l'étudions parce que grâce à elle, vient la connaissance de Dieu, et bien plus, une connaissance intime de Dieu. C'est par elle et l'action du Saint-Esprit que la grâce et la paix sont multipliés dans notre cœur, dans l'Église et dans le monde. Je finis avec une citation écrite par Bob Gass dans une méditation quotidienne. Il dit ceci, et avec ça, on aura tout compris. Pourquoi certains chrétiens semblent-ils vivre une vie de conquête permanente alors que d'autres paraissent aller de défaite en défaite? La réponse n'a rien à voir avec les circonstances, car les chrétiens victorieux font face aux mêmes épreuves que les autres. Rien à voir avec leur assiduité à l'Église ou leur fidélité dans la lecture de la Bible. Ils ne rejettent pas ça. Mais écoutez la suite. La réponse est la suivante. Les chrétiens victorieux connaissent mieux la personnalité de Christ. Aussi jouissent-ils davantage de sa puissance divine. C'est une introduction au message du dimanche prochain. Je vais conclure. Que dois-je faire pour que Dieu fasse de grandes choses en moi et au travers de moi? Servir Dieu de tout mon cœur. Placer ma foi en Christ, ou en tout cas, vous l'avez entendu tout à l'heure, savoir en tant que chrétien que nous avons la même foi, le même privilège, la foi qui nous a été donnée. Et donc de là, On pourrait dire dans ce deuxième point, humilité. Troisièmement, expérimenter davantage la grâce et la paix de Dieu. Voulons-nous être puissamment utilisés par Dieu? Voulons-nous apporter toujours plus de bonheur aux autres par la puissance de Dieu en nous? Voulons-nous continuer à nous émerveiller davantage du privilège du don de la foi? Jouir pleinement de la grâce et de la paix de Dieu? Mes amis, il nous faut faire une seule chose. Connaître Dieu de plus en plus. Je vais prier. Dieu notre Père, merci infiniment d'avoir fait de nous tes enfants. Merci infiniment de nous avoir donné la foi pour dire oui à ton appel. Pardon de ne pas toujours te laisser régner dans notre vie. Aide-nous à ne plus avoir de résistance à ta présence, à tout ce que tu veux faire, car tu as tant fait pour nous. Aide-nous à te laisser régner en nous, dans notre vie. À nous rappeler que ce que tu veux faire en nous, c'est parce que tu nous aimes. Aide-nous dans notre quotidien à passer du temps avec toi, à chercher à mieux te connaître au travers de ta parole, de la prière, de jeûne, de temps de silence dans ta présence, etc. Seigneur, que vraiment, dans tout ce que, enfin, que ce qui soit, que tu nous aides vraiment à te rechercher dans notre vie quotidienne, tout simplement, pour mieux te connaître dans l'intimité. Père, continue à te révéler à nous, pour que ta grâce et ta paix se manifestent, se multiplient, soient en abondance dans nos familles, dans l'Église, dans ce monde qui a tant besoin de toi. Te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.